Bien, maintenant nous avons le plaisir d'écouter Leyli Anvar, que je pense que vous connaissez tous. Leyli Anvar est professeure de littérature persane ici à l'INALCO. Elle est également spécialiste de littérature et de mystique persane, de poésie persane. Et je crois qu'une des choses qu'on apprécie chez elle, c'est que pour elle, la poésie, ce n'est pas seulement un genre littéraire, c'est aussi une manière de vivre sa vie.
Oui, merci beaucoup de cette présentation, parce que c'est par ça que je voulais commencer. C'est que, évidemment, là, on vient d'avoir un exposé philosophique, en fait, sur ce que c'est que l'homme parfait. Alors que moi, je vais vous inviter à entrer dans une expérience qui a été celle de Maulana Jalaluddin Rumi, qui précisément n'a jamais voulu créer un système philosophique qui fixerait sa pensée sur tel ou tel sujet, à telle enseigne que je crois qu'il n'a même pas employé le mot, j'ai pas trouvé d'occurrence vraiment du mot insan et kamel, en tout cas de définition, mais il en a eu très certainement une très profonde expérience, sachant que son expérience mystique et poétique se base en fait aussi, arrive après cette connaissance préalable nécessaire, puisqu'il était lui-même un grand maître et de la théologie et du Coran, des commentaires du Coran et aussi de la pratique soufie. Alors, je vais commencer d'abord par vous lire le texte. Alors, je vous lirai beaucoup de textes parce que c'est ce à quoi nous invite en fait l'œuvre de Rumi, c'est entrer dans les textes et peut-être en comprendre la substance en percevant leur saveur, parce que les deux sont absolument indissociables. Mais le premier texte n'est pas de Rumi en fait. Le premier texte est un commentaire qui a donné le titre à cette intervention, est un commentaire que son fils, Sultan Dalad, fait du verset, de ce qu'on appelle le verset de la lumière, c'est-à-dire le verset 35 de la sourate 24. Alors, ce verset nous dit, évidemment, mon titre est un peu provocateur, puisque le verset dit « Dieu est la lumière des cieux et de la terre ». Sa lumière est comparable à une niche où se trouve une lampe, la lampe est dans un verre, le verre est semblable à une étoile brillante. Cette lampe est allumée à un arbre béni d'olivier, qui ne provient ni de l'Orient ni de l'Occident, et dont l'huile est près d'éclairer sans que le feu la touche. Lumière sur lumière, Dieu guide vers sa lumière qui il veut. Vous reconnaissez des thèmes qui ont déjà été évoqués tout à l'heure. Dieu propose aux hommes des paraboles. Dieu connaît toutes choses. Et Sultan Dalad, donc, qui tient tout de son père en réalité, qui dans son œuvre ne fait que finalement donner des explications, interpréter et commenter l'œuvre de son père, nous dit « Cette lampe est l'être du saint, le Vali. L'huile est son cœur pur. Dieu le Très-Haut réside dans ce cœur et y est attaché. » Ni la terre ni le ciel ne me contiennent, c'est une citation du Coran, mais le cœur de mon fidèle serviteur me contient. Le reflet de la lumière de cette lampe éclaire et vivifie l'existence de l'univers. Une partie de cette lumière n'est pas tangible, mais intelligible. Elle brille de façon inconditionnée et non contingente dans les âmes et les intelligences. Et à partir des âmes et des intelligences, elle brille sur les animaux. Et à partir des animaux, sur les végétaux, qui poussent et s'accroissent. Et à partir des végétaux, sur les choses inanimées, afin qu'elles se réchauffent et se refroidissent. Tous ces rayonnements sont les signes du reflet de cette lumière. Donc, la vie réelle appartient à ce saint qui est soutenu par Dieu et qui est le vicaire de Dieu dans le ciel et sur la terre, le fameux calife. Et toutes les autres créatures vivent par le reflet de sa lumière. Bon, ça continue un certain temps comme ça. C'était la traduction de Eva de Vitré-Meyerowitz, que je salue au passage. Et en effet, dans l'œuvre de Rumi, la lumière, le soleil et la lumière sont vraiment la métaphore centrale, voire, on pourrait dire, la métaphore obsédante, bien que je ne crois pas qu'il s'agisse ici d'une obsession, dans le sens où on l'a évoqué tout à l'heure. Alors, juste, il faut que je dise deux mots pour ceux qui ne le savent pas, et je suis désolée pour ceux qui connaissent la vie de Rumi par cœur, et je sais que vous êtes nombreux ici à savoir tous les détails. En tout cas, donc Rumi est un mystique, un poète mystique qui a traversé le XIIIe siècle, puisqu'il est né en 1207. et qui a été formé par son père, et puis ensuite par des maîtres successifs qu'il a rencontrés dans ses voyages, et en particulier à Damas, qui était à l'époque le centre de l'enseignement religieux et spirituel. Donc il a reçu un très solide enseignement en matière, comme je l'ai dit tout à l'heure, en matière à la fois théologique et spirituelle, puisque son père était déjà un spirituel ascétique, un soufi, on pourrait dire, bien qu'il n'ait pas eu d'affiliation confrérique connue. Et il rencontre donc, alors qu'il a même pas tout à fait 40 ans, il rencontre un derviche errant, précisément quelqu'un qui est présenté comme un comme le voyageur par excellence, hein, celui qui ne s'arrête nulle part, qui ne se pose nulle part. On appelle même Shamse Parande, celui qui vole tout le temps, hein, de lieu en lieu, qui s'envole de lieu en lieu. Et donc ce personnage, ce derviche errant, c'est Shams de Tabriz, dont le nom même signifie donc le soleil de Tabriz. Et cette rencontre, elle est très intéressante, et ça va être le cœur de mon sujet, parce que Shams va représenter pour Rumi précisément une sorte d'incarnation, et même si ce mot évidemment est sujet à caution en contexte musulman, en tout cas une manifestation, un lieu de manifestation plus exactement, de la perfection divine, et donc lui-même devenir le modèle absolu de l'homme parfait. Mais on va voir que, en fait, ce que Rumi a vécu avec Shams, c'est évidemment cette présence, mais c'est aussi ce que cette présence lui a fait, à savoir mettre en branle toute la dynamique de l'amour. Et c'est pour ça qu'il deviendra le chantre de la religion de l'amour, en fait. Et puis surtout, ce que je vais essayer de montrer à travers quelques textes, c'est que leur relation était réciproque. C'est-à-dire que quand Shams arrive dans la vie de Rumi, c'est un bouleversement absolu. Rumi se rend compte que toute cette connaissance qu'il a acquise avant n'a été là que pour ce jour-là, pour qu'il entre dans cette commotion de la découverte, en fait, justement, de voir, de visu, cette foi qu'il avait avant et qui n'était pas encore la foi de visu, ce qu'on appelle la certitude de visu. Et donc, ça va lui permettre d'entrer dans cela. Mais Shams aussi va pouvoir se contempler dans Rumi, comme on dit dans les traités de soufisme, précisément, ou plus tard, la Sadra, que Dieu veut se contempler, en fait, dans sa création. Et c'est pour ça qu'il a créé la création, c'est pour ça qu'il a fait les hommes, c'est pour ça qu'il invite les hommes à cette perfection, parce que dans l'homme parfait, Dieu se contemple lui-même. Et on va voir que la relation entre Rumi et Shams est en fait un microcosme de cette donnée en fait spirituelle fondamentale qui est, et même plus que spirituelle, enfin qui engage en fait toute la métaphysique de la mystique telle que la vivait en tout cas Rumi, c'est que en réalité Dieu se contemple dans l'homme parfait qui devient donc qui participe à ce titre-là à la divinité divine ou à la perfection divine. Alors je vais vous citer un des ghazals de Rumi qui va justement raconter l'histoire de ces transformations successives qu'il a vécues et qui l'ont amené à s'approcher justement de son modèle, qui était le modèle de l'homme parfait représenté dans la personne de Shams. Je précise que Rumi est devenu poète après la disparition de Shams, lorsque Shams l'a quitté, mais je vais y revenir tout à l'heure. Leur communion dans ce monde-ci n'aura duré qu'à peine 3 ans. Alors, le texte est un petit peu long, mais je vais le commenter en même temps que je vais vous le lire. Le premier vers en persan, pour quand même entendre sa musique, « Molde bodam zende shodam, gerye bodam khande shodam, doulate eshra madoman, doulate hoyan de shodam. » J'étais mort, je devins vivant. J'étais pleur, je devins rire. Le règne de l'amour est venu et ma joie est devenue éternelle. Alors, tout à l'heure, Christian Jambet en a parlé, donc comme je vais essayer d'être un peu plus brève, histoire de rattraper le temps, je ne vais pas commenter longuement, mais vous voyez que le poème commence sur l'idée qu'il a été alchimiquement transformé par cet advenu du règne de l'amour dans sa vie. Et alchimiquement transformé, ça rappelle étrangement le texte que Christian Jambé a cité tout à l'heure. C'est vraiment cette idée que de mort il devient vivant, pleure devient rire, etc. Donc de tout ce qui est le plus bas et le plus ténébreux et le moins enviable, évidemment il a acquis, il a accédé à une station qui est celle de la vie vraie. J'ai le regard rassasié et j'ai l'âme courageuse, j'ai le courage des lions, je devins Vénus éclatante. Alors on va voir se mettre en place dans le poème toute une série de métaphores astrales qui vont nous indiquer précisément que cette lumière divine qui se manifeste dans, à la fois dans celui qui chemine et dans l'homme parfait qui le guide, donc se manifeste à des degrés divers selon les étapes du moment, enfin selon les étapes dans laquelle, se trouve en fait l'amant poète mystique pèlerin qui parle dans ce poème. Il me dit, alors voilà, c'est là qu'on arrive, il me dit, pour l'instant, qui est il ? Je vous le dis, c'est Shams, évidemment, on va le savoir à la fin du poème, mais de toute façon, c'est tiré du divan des Shams, donc le divan des poèmes qui célèbre la personne de Shams. Il me dit, tu n'es pas fou, tu n'es pas digne de cette maison. Je partis, je devins fou, je devins lieur de chaînes. Le premier temps, c'est de renoncer à la raison. Mais attention, ce renoncement à la raison n'est pas un renoncement à l'intellect tel qu'on vous en a parlé tout à l'heure. C'est précisément à la raison qui enferme, à la raison qui fait croire que la loi est le début, le milieu et la fin du chemin. Il me dit, tu n'es pas fou, tu n'es pas digne de cette maison. Je partis, je devins fou, je devins lieur de chaînes. Il me dit, tu n'es pas ivre, va, tu ne fais pas partie de ma bande. Je partis, je devins ivre et d'allégresse remplie. Rumi n'a jamais quitté Shams, il n'est jamais parti. Mais évidemment, c'est ce départ dont il est question, c'est ce voyage intérieur de l'âme qu'il a accompli pour aller vers cet autre espace que lui proposait Shams. Il me dit, tu n'es pas mort. Et là, je ne commente pas, tout à l'heure, le commentaire était magistral sur mourir, le fait que le prophète disait, il faut mourir avant de mourir. Et ça, c'est Shams qui le lui montre, qui lui montre le chemin. Il me dit, tu n'es pas mort, tu n'es pas rempli d'allégresse. Il y aurait donc une mort qui serait allégresse pure. Et c'est évidemment la mort à soi. Devant sa face de résurrection, je devins mort renversé. Et là, on est dans un élément très important et très propre à Rumi. C'est-à-dire ce qui est proposé dans beaucoup d'autres œuvres, en particulier les traités ou de soufisme ou les traités de philosophie, comme quelque chose qui va advenir plus tard dans l'autre monde, au moment de la résurrection. Rumi l'a vécu ici et maintenant dans ce monde avec un être qui était incarné dans un corps humain. Et c'est bien ça, devant sa face de résurrection, on ne peut pas dire plus clairement que dans l'ici et le maintenant de son existence, il s'est retrouvé devant la face, la seule chose qui demeure, évidemment, puisque tout va... là aussi, on a eu tout à l'heure cette idée que tout passe sauf sa face souveraine. Et ce que Rumi voit, contemple dans la personne de Shams, c'est précisément cette face de résurrection qui lui permet donc d'accéder à cette mort d'avant la mort, qui est la mort du soi. Il me dit, tu es un petit malin, ivre d'illusions et de doutes. Je devins bête et bêté, de tout, je me suis détaché. En fait, toutes les étapes dont on vous a parlé tout à l'heure, on les voit vécues ici. Tout à l'heure, on vous disait, le pèlerin doit faire cela, doit avoir la foi, doit faire sa purification, etc. Doit renoncer à lui-même, se détacher. Là, il dit, je l'ai fait. Donc, il parle à la première personne pour parler de cette expérience vécue. Et là, on passe à une autre phase. Il me dit, tu es bougie, devenue pôle de cette assemblée. Donc la transformation alchimique, une fois qu'il est mort, une fois qu'il a renoncé à toutes les illusions et à tous les doutes, fait qu'il devient une bougie. Pour l'instant, c'est une petite chandelle, une bougie. Mais quand même, c'est autour de la chandelle que tournent les papillons et c'est déjà une manifestation de la lumière, cette lumière avec laquelle j'ai ouvert donc cette intervention. Devenu pôle, donc il me dit, tu es bougie, devenu pôle de cette assemblée. Et le mot, je crois, n'a pas été prononcé tout à l'heure, mais un des attributs, en fait, de l'homme parfait, c'est qu'il devient, une fois qu'il a accompli sa perfection, quand c'est un être qui a dû traverser le travail spirituel pour l'accomplir, c'est qu'il devient lui-même pôle, comme l'est le modèle de l'homme parfait, c'est-à-dire le prophète, évidemment, qui est carrément le pôle du monde, sans lequel le monde ne pourrait même pas tenir. Et là, donc, la transformation fait qu'il devient lui-même pôle de cette assemblée. Mais il ajoute, « Je ne suis ni assemblée, ni bougie, je devins fumée, dispersée. » Il me dit, « Tu es maître et seigneur, tu es chef de file et guide. Je ne suis ni maître, ni chef. Je ne suis que ton serviteur. Ma nouvelle étoile me dit, ne marche plus, ne souffre plus, car par grâce et par bonté, c'est vers toi, c'est moi qui marcherai. L'amour de toujours me dit, ne t'éloigne pas de moi. Je répondis, non, je ne le ferai pas. Je devins immobile et fixe. » Évidemment, là, c'est le jeu de l'échange réciproque amoureux qui est évoqué, c'est-à-dire, lui, il tourne autour de Shams comme un papillon autour d'une chandelle, puis, à son tour, il devient finalement le miroir qui reflète cette lumière même de Shams et dans laquelle Shams lui-même se contemple. C'est pourquoi on retrouve d'ailleurs dans les paroles de Shams, dans les marolotes de Shams qui nous sont parvenues, un très grand nombre de paroles absolument saisissantes qui nous montrent que si Rumi a aimé Shams, Shams l'a au moins aimé autant. Combien de fois il l'évoque en termes précisément de pôle, d'homme ayant achevé la perfection à la fois spirituelle, morale et mystique. Et donc, il parlera de la connaissance de Shams, il ira même jusqu'à dire, certains veulent voir le prophète. Si je vous donne la citation exacte, c'est mieux. Certains veulent voir, en vérité, voir ton visage, dit Shams à Maulana Rumi. En vérité, voir ton visage est une béatitude. Certains désirent voir l'envoyé de Dieu, qu'il voit Maulana, tout simplement. Heureux qui a trouvé Maulana. Dire cela, dire que Maulana, donc Rumi, voir, regarder, contempler le visage de Rumi, c'est comme contempler le visage de l'envoyé de Dieu. On ne peut dire plus clairement, précisément, que Rumi est devenu lui-même un lieu où se manifeste cet idéal de l'homme parfait. Alors, je ne vais pas... le poème est assez long, mais juste pour finir. « Mon cœur a reçu le rayonnement de l'âme, il s'est ouvert, il a éclos, il a tissé une soie nouvelle, je suis devenu ennemi de mes haillons. » La forme de l'âme à l'aube se vantait dans sa fierté. J'étais esclave, serviteur des ânes, et me voilà roi et seigneur. Et c'est précisément cette transfiguration de la bête en ange qui est évoquée ici. Et enfin, donc, pour vous dire qu'il y a une gradation dans l'évocation des astres, j'étais Vénus, cette Vénus qu'on avait au début, je devins lune, firmament aux mille courbes, j'étais Joseph et à présent de moi naissent des Josephs. Je suis de toi, ô ma lune renommée, regarde en moi et en toi-même, car c'est sous l'effet de ton rire que je suis devenue roseraie riante. Donc, l'homme parfait est un alchimiste, un éveilleur, un maître, un pôle. Il est à la fois l'aimé et l'amant. Il est à la fois le guide et le guidé, puisque ça se passe dans un rapport à la fois d'initiation et d'amour réciproque. D'ailleurs, à nouveau dans ses paroles, Shams disait « Pendant très longtemps, j'ai demandé à Dieu de me faire rencontrer l'un de ses amis. » Et Dieu m'a dit « Il existe, il est en Anatolie. » Mais il n'était pas encore prêt à cette époque, donc j'ai attendu un certain temps avant de venir le rencontrer. Donc, Shams aussi était à la recherche. Et le fils de Rumi nous dit que son père avait demandé à Dieu, avait prié Dieu de lui faire un jour rencontrer un homme de Dieu. Donc, tous les deux étaient dans ce désir et dans cette soif, sans laquelle, en fait, il n'y a pas le dynamisme alchimique qui permet de tendre vers cette perfection de l'humanité qui doit se transformer en homme divin. Et, mais bon, Shams lui-même, dans ses paroles, il ne fait pas que dire du bien de Rumi, il se présente lui-même comme étant l'homme parfait de référence, et presque sans le dire, en le disant, le successeur direct du prophète Mohammed, rien que cela. Il dit par exemple, « J'ai reçu la robe d'investiture des mains du prophète, sur lui la paix. » J'ai reçu la robe d'investiture. Évidemment, la robe d'investiture, normalement, c'est le maître qui la donne à son disciple. Et là, quand il dit qu'il a reçu la robe d'investiture des mains du prophète, ça veut dire que le prophète le désigne comme précisément son calife, dans un geste évidemment purement mystique, puisque ça se passe dans une dimension autre que la dimension historique. J'ai reçu la robe d'investiture donc des mains du prophète, non pas une robe qui se déchire et devient haillon au bout de deux jours, que l'on jette dans une chaudière ou qui sert aux soins d'hygiène. Entre parenthèses, je crois qu'il y a là une critique aussi d'un certain soufisme. Parce que, évidemment, donner la robe d'investiture, c'est quoi cette robe d'investiture qui sert aux soins d'hygiène et qu'on jette dans la chaudière? Je pense que c'est celle qu'il désapprouve pour être peut-être celle que l'on reçoit de quelqu'un d'autre que des mains du prophète lui-même. Enfin bon, c'est pas donné à tout le monde quand même de recevoir la robe d'investiture des mains du prophète. Donc non, c'est la robe de l'intimité, une intimité au-delà de toute compréhension. Une intimité qui échappe au passé, au présent, au futur. Qu'est-ce que hier, aujourd'hui ou demain pour l'amour? D'emblée donc, Shams se situe, en fait, situe même l'idée même de cette perfection de l'homme parfait dans un temps anhistorique dans lequel on peut précisément recevoir sa robe d'investiture des mains du prophète lui-même. Il n'y a pas, en fait, il n'y a ni espace ni temps qui compte dans cette dimension dans laquelle se déploie en fait la transmission et la transformation alchimique d'homme parfait à homme en devenir de perfection. Simplement, Shams, au moment où il dit ça, il a, semble-t-il, enfin du moins c'est ce qu'il suggère, achevé en fait cette perfection à laquelle il a travaillé dans ses errances multiples, puisque quand il rencontre en fait Rumi, il a déjà l'âge avancé de 60 ans et il n'a jamais eu de maître véritable, bien qu'il en ait rencontré beaucoup, parce qu'il était venu pour autre chose. Et donc, on voit apparaître là, donc, comme je le disais tout à l'heure, cette figure du prophète qui est détenteur de la lumière mohammadienne. Évidemment, il nous dit très clairement ici qu'il ne s'agit pas que du prophète historique. Le prophète historique n'est que la manifestation, dans un temps donné et dans une époque donnée, et dans un lieu donné, pardon, de cette lumière mohammadienne qui est pré-éternelle et qui est même à la source de la création du monde. Qui est le modèle de l'homme parfait, mais ça, je laisse Pierre Laurie vous le développer beaucoup mieux que je ne saurais le faire. Il est l'origine du monde et sa destination en même temps. Mais il est aussi le chemin qui mène à la lumière. Donc la lumière mohammadienne est à la fois origine, destination et ce qui éclaire le chemin. La vérité, le chemin et la vie, en somme. Attar, d'ailleurs, qui a inspiré Rumi, dit dans son prologue du Cantique des oiseaux, en parlant du prophète Mohammed, « Il est le seigneur des deux mondes, le souverain, le soleil des âmes et la foi de tous les cœurs, maître de l'ascension, sommet des univers, ombre de Dieu et lui-même l'essence solaire. L'ici-bas comme l'au-delà lui sont soumis, le trône de Dieu se prosterne vers sa poussière, il marche devant dans ce monde et dans l'autre, il est le guide du visible et de l'invisible, il est le plus éminent de tous les prophètes, il dirige les purs et il conduit les saints, il est le bien guidé et le guide sur toute voie. » J'ai fait exprès de bien mettre ce vers parce que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'homme parfait c'est à la fois celui qui est bien guidé et qui guide. On ne peut pas dissocier en fait les deux mouvements. Prêtre de l'invisible, du tout et des parties. En fait, dans cette évocation du prophète Mohammed, Hathor sacrifie à une coutume assez systématique en littérature persane, à savoir que tous les masnavis, c'est-à-dire les romans, disons, en vers, enfin, les grandes œuvres en vers, les longues œuvres en vers, commencent par une louange de Dieu, puis suivie d'une louange du prophète. Et ça, c'est assez systématique, mais ce n'est pas seulement, ce n'est pas seulement pour sacrifier au genre qu'il le fait. On voit très clairement qu'il déploie ici quelque chose de très profond sur ce qu'il pense, en fait, du cheminement spirituel. Et je voudrais préciser ici que, d'ailleurs, à la fin de cette louange, s'adressant au prophète Mohammed, il lui dit « Puisque nous portons le même prénom, au nom de ce prénom, guide-moi vers ta lumière. » Et en effet, Hathor portait comme prénom de naissance, comme beaucoup d'autres, le prénom de Mohammed, mais c'était aussi le cas de Shams Tabriz, et c'est aussi le cas de Jalaluddin Rumi. En fait, c'est Mohammed Jalaluddin Rumi, Mohammed Shams Tabriz. Donc, Mohammed Shams Al-Haq Tabriz. Donc, ils ont en commun aussi ce prénom. Vous me direz, c'est un prénom très commun. Mais d'un coup, ça devient extraordinairement signifiant pour eux, d'être porteurs de ce nom. Donc, je disais, tous les masnavi en littérature persane commencent donc par... ont toujours dans leur prologue un passage qui est une louange du prophète, sauf dans le masnavi de Rumi, dans lequel il n'y a pas de prologue, il n'y a absolument rien de ce qu'on attend dans un masnavi classique. Et alors, je me suis posé la question de savoir pourquoi, alors que Rumi est un disciple de Shams et que, évidemment, il a cette profonde fidélité à la lignée mohammadienne, qu'il se réclame en fait de cette lignée de manière presque directe, un peu comme Shams le fait, eh bien je me suis dit que c'est peut-être précisément parce qu'il se perçoit comme étant lui-même aussi comme quelqu'un qui a reçu directement la robe d'investiture de la part du prophète. Et que donc il n'a pas besoin de se mettre à distance et qu'il peut immédiatement commencer à parler presque au nom du prophète lui-même. Il le dit d'ailleurs dans une petite introduction en prose arabe qu'il fait dans le Masnavi, qui est quand même considéré par dont le titre est quand même le Coran en persan, le Coran en langue persane. Il dit que son œuvre en fait que ceci est l'essence même du Coran. Donc d'une certaine façon, quand il parle, c'est comme si le prophète parlait. Donc il va quand même pas faire une louange du prophète, puisque c'est le prophète qui parle, si je puis dire. Enfin, c'est l'explication que j'ai trouvée, parce que c'est très étrange. Hein. On dit le Masnavi de Rumi, c'est le seul qui n'obéit à aucune règle, enfin, sauf celle de la métrique, mais enfin, à aucune règle habituelle de la composition d'un Masnavi. Et puis, il y a peut-être aussi une autre raison. C'est que Rumi, dans son œuvre, n'a de cesse de dévoiler, en fait, cette lumière propre à la lumière, cette lumière qui est propre, donc, à l'homme parfait. Dont il a vu donc la manifestation dans Shams, le soleil de Shams, et donc qu'il a chanté évidemment de manière absolument incandescente, folle, dansante et extatique dans le divan de Shams. Et donc, mais par contre, on peut se poser. Je vais vous lire un petit extrait du début du Masnavi, à peu près dans les débuts du Masnavi. Qui nous donne une indication sur la raison peut-être pour laquelle il ne fait pas une description, comme l'a fait Hathor avant lui, de la lumière, en fait, mohammadienne, de la présence solaire de cette lumière, parce de même que dans le Masnavi, il ne parlera plus de Shams. Donc, dans ce début du Masnavi, à un moment, il dit « Mon âme s'est accrochée à ma robe et m'a dit « Parle-moi de Shams, évoque-moi le passé, les souvenirs que tu as eu avec lui. » Et il répond qu'il ne va pas le faire. Pourquoi ? Parce que s'il se révèle dans sa nudité, il ne restera rien de toi, rien au centre, rien à tes côtés. Oui, tu peux espérer, mais ton désir doit être modéré, car un fétu de paille ne peut une montagne porter. Ce soleil dont l'éclat fit naître l'univers, c'est très important. Il est en train de répondre à une injonction de parler de Shams, donc le soleil de Tabriz. Et il dit, ce soleil dont l'éclat fit naître l'univers. Il est évident qu'il y a ici une identification complète entre Shams et le détenteur de la lumière mohammadienne, qui n'est autre donc que l'archétype du prophète Mohammed lui-même. Ce soleil dont l'éclat fit naître l'univers brûlerait tout s'il s'approchait trop près. Ne cherche pas le trouble, le tumulte et le sang, et sur Shams de Tabriz ne dit plus rien. Après avoir dit 40 000 vers de poésie, évidemment, pour en parler. Mais enfin, il arrive à un moment où il se dit, en fait, on ne peut pas en parler. Et il expliquera qu'il faut le voir sous les voiles de la narration. Qu'il faut se contenter de le percevoir sous les voiles de la narration, car la contemplation du soleil, évidemment, est impossible. Saint-Simon aussi le savait. Le soleil ne peut se voir en face, le soleil ni la mort. Donc, Shams est par sa seule présence une révélation. Et une révélation mohammadienne au sens où il est manifestation de la lumière primordiale et créatrice dans un corps humain. Mais ce qui est intéressant, c'est que Rumi va aller au-delà de juste cette position, donc comme je disais tout à l'heure, de juste de contempler dans Shams cette lumière qui se manifeste. Puisque lui-même va devenir le miroir dans lequel la lumière de Shams va se manifester. Il dira, par exemple, « L'essentiel, c'est toi. Moi, qui suis-je? Un miroir dans ta main. Miroir expérimenté, je deviens ce que tu montres. » Et Sultan Valad, à nouveau le fils de Rumi, racontant l'expérience de fusion des essences vécue par son père, dira « Une fois que Shams aura définitivement disparu, et que Rumi aura acquis la certitude qu'il ne le retrouvera plus jamais dans ce monde, dans le monde d'ici-bas, après être allé même le chercher jusqu'à Damas. Donc, Sultan Valad nous dit, il ne vit pas Shams de Tabriz à Damas, il le vit en lui-même, apparu comme la lune. Il dit, bien que de corps nous soyons séparés de lui, sans corps et sans âme, nous ne sommes qu'une seule lumière. Que tu le vois ou que tu me vois, ô chercheur, je suis lui et il est moi. Pourquoi disons-nous encore moi et lui, puisqu'il est moi et que moi je suis lui? Ou plutôt tout est lui et moi je suis en lui. Ce que je reçois et ce que je dépense sont de lui. Il est comme la personne et moi comme l'ombre. Sans la personne, quelle existence aurait l'ombre? Il est comme le soleil et moi comme la parcelle. Il est comme l'océan et moi comme la goutte. Mais ailleurs, Rumi dira, évidemment qu'il y a une différence peut-être quantitative entre soleil et parcelle, mais il n'y a pas de différence qualitative. La parcelle, le rayon, est au soleil ce que la goutte est à l'océan, c'est-à-dire qu'ils sont de même nature. Et finalement, c'est pour ça qu'il y a une gradation aussi dans les figures d'hommes parfaits. Il y a des hommes, même quand on n'est qu'une goutte, si on est de la même essence que le divin, on est homme parfait. Simplement, voilà, il y a un écart entre simplement d'intensité, je dirais, de réception de la lumière. Et d'ailleurs, Shams, comme je le disais plusieurs fois, il parle de Rumi comme étant un lieu de révélation de lui-même, voire de lui-même pour les autres, mais aussi de lui-même à lui-même. Ça, c'est encore plus étonnant. Il dit par exemple, je cherchais quelqu'un de même nature que moi, ça c'est Shams qui parle, je cherchais quelqu'un de même nature que moi pour en faire mon pôle. Et on retrouve évidemment l'axe du monde, hein, qu'est le pôle. Pour en faire mon pôle et me tourner vers lui. Car, ajoute-t-il, j'étais là de moi-même. Que pourrais-tu comprendre de ce que je dis là? J'étais là de moi-même. Je ne sais pas ce qu'on peut comprendre, remarquez, j'ai beaucoup réfléchi. Je ne sais pas, mais peut-être que ce qui nous l'expliquera, c'est une autre image que Shams emploie. Il dit de lui-même qu'il était comme de l'eau croupie. Et que de parler à Rumi, de rencontrer Rumi, a fait de lui une eau courante. Donc, l'homme parfait lui-même a besoin de se manifester. Il a besoin d'un réceptacle dans lequel cette vie qu'il a à donner puisse se mettre à circuler. Et ça, c'est un point quand même, je pense, très original dans l'histoire de la mystique persane, en tout cas. En général, dans le soufisme en particulier, il y a ce rapport maître à disciple, et il n'y a pas cette sorte de renversement tel qu'elle se produit donc dans la relation entre Shams et Rumi. Ailleurs encore, Shams dira, notre Maulana est la pleine lune. Aucun regard ne peut atteindre le soleil de mon être, mais la lune est accessible.
l'éclat et la lumière du soleil sont tels que le regard ne peut le soutenir et la lune n'atteint jamais le soleil. Il faut que le soleil aille à elle. Donc vous voyez, il y a réciprocité, mais quand même, encore que je vous dis, il y a quand même une gradation, il y a le soleil et la lune. Comme vous le savez, le soleil est quand même source de lumière, alors que la lune n'est qu'un réceptacle. À elle toute seule, la lumière n'a pas de lumière. Donc, voilà, il y a des hommes parfaits avec des gradations, mais il y a quand même aussi une différence qui est que, dans un cas, l'homme parfait qui s'est réalisé dans ce monde et qui n'est donc pas primordialement destiné à manifester la perfection divine, mais qu'il a obtenu par un travail sur lui, en réalité ne devient que réceptacle. Il n'est quand même que le miroir, même s'il est le miroir de cette manifestation de la lumière. Évidemment, tout homme est capable de Dieu, Rumi le dira très souvent. Il faut pour cela, bien sûr, la purification qui permet de polir le miroir du cœur et de brûler les voiles de l'ego et la suie que produit le soi impérieux sur la surface du miroir intérieur. Évidemment, du degré de transparence du miroir dépendra le degré de perfection que l'on aura atteint et donc du degré de lumière que l'on pourra recevoir. Tout homme, pour Rumi, a pour finalité de transmuer tout son être en lumière et devenir ainsi capable de retourner à son origine, car c'est cela l'enjeu. Si on dit que la lumière, c'est à la fois l'origine, le chemin et la destination, c'est bien parce que l'enjeu, c'est de savoir comment retourner à son origine. Comme on l'a dit tout à l'heure, Rumi, évidemment, adhère à cette donnée première, qui est que l'âme est en exil dans ce monde des ténèbres, et que sa vraie patrie est évidemment cet autre monde dans lequel brille la lumière, cette fameuse lumière mahamadienne de tout son éclat. L'eau de notre vie, dit-il, n'est pas moins que l'eau de la mer. Nous nous soulevons en vagues de l'étang vers le néant. Ici, le néant est positif. Hein. Le néant, ça veut dire précisément ce lieu où on n'est plus soi-même en tant qu'ego. Elle ne connaît de repos ni dans ce monde de terre, l'âme, ni même dans le ciel de cette voûte aux multiples courbes. Le jardin où elle a éclos, voilà ce que désire l'âme, c'est-à-dire d'être auprès du roi glorieux, créateur des âmes. Et en effet, cette idée du roi glorieux, dont on trouve déjà l'origine hein, dans le mazdéisme, hein, c'est-à-dire c'est à la fois le créateur et celui qui fait que le monde tient. C'est celui qui a aussi cette aura de lumière qui était chez les Mazdéens désignée comme le Fahr et Izadi, hein, c'est-à-dire vraiment qui détient cette gloire mohammadienne avant l'heure, d'une certaine façon. Hein, donc c'est l'aura de gloire de celui qui détient, en fait, qui est le souverain de ce monde et dans l'autre, dans sa forme manifestée. Parce que finalement, celui qui est au-delà de cette figure royale, de cette métaphore royale, seigneuriale, auréolée de lumière, qui a fait le monde et qui le tient et qui le maintient, ce qui est au-delà de cela n'est évidemment ni discible, ni imaginable, ni perceptible par aucun sens, pas même par les sens de l'âme. Il s'agit ici, bien sûr, de la limite de ce à quoi l'âme humaine peut atteindre, mais évidemment c'est une limite qui est placée extrêmement haut. Et c'est cette figure royale donc est assimilée à la figure solaire. Donc l'homme parfait est aussi un roi soleil, d'une certaine façon, qui brille sur la totalité des univers et auquel l'âme désirante veut accéder parce qu'elle a en elle, en tant que microcosme, une étincelle qui vient de cette splendeur primordiale et pré-éternelle. Et donc, elle a ce désir en elle, même pour ceux qui n'ont pas la connaissance, qui n'ont pas travaillé sur eux, qui sont complètement aveugles du point de vue, évidemment, de cette démarche-là, n'empêche qu'ils ont cette lumière. D'où la nostalgie et l'idéalisme, en fait, l'aspiration à l'idéal qui est au cœur de tout être humain, même ceux qui n'ont pas vraiment travaillé. L'homme, nous dit Rumi, est quelque chose d'immense. En lui, tout est inscrit, mais ce sont les voiles des ténèbres qui l'empêchent de lire en lui cette science. Tu vaux plus que les deux mondes. Que faire ? tu ne connais pas ta valeur. Ainsi donc, je terminerai comme ça, on va rattraper le temps. Sur le chemin de la perfection ou du perfectionnement de l'âme, l'âme, certes, doit être guidée par un maître plus parfait qu'elle, qui a peut-être fait le chemin devant elle, mais en réalité, à la fois le guide et le guidé participent du même cheminement, qui est un cheminement de transformation alchimique vers la lumière. Et puis, une fois que ce cheminement a été fait entre maître et disciple, quand le maître a donné à son disciple ce qu'il devait lui donner, alors il peut en fait se retirer, et c'est au disciple de continuer ce travail intérieur tant que le disciple n'est pas devenu parfait, dit Shams, et qu'il n'est pas à l'abri des désirs de son soi. Il n'est pas bon pour lui d'être éloigné de son maître, car le vent froid le refroidirait immédiatement. Mais une fois qu'il est devenu parfait, alors l'absence de son maître ne lui nuit plus. C'est d'ailleurs pour ça que Shams, à un moment donné, a jugé qu'il pouvait partir. Si l'expression d'homme parfait n'est pour ainsi dire jamais citée par Rumi en tant que tel, contrairement à d'autres grands penseurs mystiques qui ont été cités tout à l'heure, dont je ne donnerai pas la liste, en revanche, cet homme parfait, sa présence en fait, est omniprésente dans l'œuvre de Dieu, dans l'œuvre de Rumi, pardon, quel lapsus. Sa présence vécue. En plus, j'ai écrit Rumi, je ne sais pas pourquoi je dis Dieu. Sa présence vécue dans ce monde, rendue palpable en fait par les images poétiques, en particulier celles du soleil, du feu et aussi accessoirement de l'océan comme source de vie. Donc, cette présence est rendue palpable dans les métaphores, dans le jeu de miroir entre l'infiniment petit et l'infiniment grand. C'est à la fois un idéal, toujours à venir, l'origine de tout ce qui est, le chemin et chaque individu humain, y compris dans sa dimension la plus infime et la plus imparfaite. Et on voit ainsi se mettre en place toute une mise en abîme, le Dieu qui se reflète dans son prophète, le prophète qui se reflète dans l'homme parfait, idéalisé, sous la forme du maître ou de l'aimé, l'aimé lui-même qui se reflète dans son disciple ou dans le cœur de son amant, qui à son tour donc accède à cette lumière qui le transforme lui-même en maître, en aimé, voire en Dieu. Donc, tout être créé a vocation à la perfection et à se transformer en pure lumière, en abandonnant l'ego pour faire advenir en lui l'homme parfait et l'âme universelle. Et je voudrais terminer par ces quelques vers à nouveau de Rumi, cette fois aussi traduit par Eva de Vitré. C'est sur l'homme de Dieu, mais en fait, vous verrez que l'homme de Dieu ressemble à s'y méprendre à l'homme parfait. L'homme de Dieu est enivré sans vin. L'homme de Dieu est rassasié sans pain. L'homme de Dieu est éperdu, bouleversé. L'homme de Dieu ne mange ni ne dort. Il est un roi sous son froc. Il est un trésor dans les ruines. Il n'est pas fait d'air et de terre. Il n'est pas fait de feu et d'eau. L'homme de Dieu est un océan sans limite. Il fait pleuvoir des perles sans nuages. Il possède sans lunes et firmaments. Il possède sans soleil. L'homme de Dieu est rendu sage par la vérité suprême. L'homme de Dieu n'est pas rendu savant par les livres. Il est au-delà de l'impiété et de la religion. Il est juste. Pour lui, juste et injuste sont semblables. Il a chevauché hors du non-être. Il a servi avec dignité. L'homme de Dieu est caché. Ô Shamsuddin, soleil de la vérité, va chercher l'homme de Dieu en toi et trouve-le.
Merci beaucoup Laïli pour cet exposé si dense et si lumineux, précisément, si plein de lumière. Alors nous allons procéder comme tout à l'heure, à savoir que s'il y a des questions, si elles peuvent se dire là tout de suite, Laïli prendra en note peut-être les différentes questions et y répondra de façon globale. Question ? Oui, monsieur ?
Oui. Comment, quand Charles parle de son investiture, il n'est pas avoir la sensation qu'en fait, qu'il y a une manière de s'enfler pour en parler ainsi ? Et comment dans ce type de discours où on décrit une certaine forme d'état, finalement, ne pas voir sournoisement revenir ce que le chemin du suicide va chercher à laisser.
Bien. Autre question? Est-ce que il y a personne qui voudrait poser une autre question là? Oui, madame.
Oui, je voulais demander, dans l'histoire du dialogue avec lui, si la parole de Charles n'était pas une parole performatrice, si cette transformation n'était pas immédiate, et si ce n'était pas dans la continuité du verset du Coran qui dit « Iva kada amman, iva indama » et « Akhomu la vie, kumfra yakoum ».
Question? Oui.
Question.
Oui, monsieur Morgan.
Absolument pas philosophique. Pourquoi Lely n'a pas traduit, pourquoi elle a cité la traduction de madame Lely?
Il y a des choses que j'ai traduites.
Bon, oui, madame.
La transformation de Lely s'est réalisée au travers de cette rencontre extraordinaire avec Shams. Donc, de devenir de l'ange, et grâce à cette rencontre extraordinaire. Qu'en est-il de la vie des autres hommes qui sont tout autant des éclats de lumière et qui n'ont pas cette rencontre sur leur chemin?
Je crois qu'on en a.
Oui, oui, ça va.
Alors. L'enflure de l'ego, évidemment, est un danger qui guette tout le monde, hein, et peut-être encore plus particulièrement ceux qui ont cheminé. On a vu beaucoup de gens tomber à cause de l'ego quand il advient. Mais alors, il faut. Là, je vous ai cité quelques passages de l'œuvre de Shams, enfin de son enseignement oral. Il faut évidemment la prendre dans son ensemble, et il faut la voir dans l'effet qu'elle produit. C'est-à-dire que, en même temps, quand quelqu'un a une mission, quand quelqu'un a un vrai accomplissement, une vraie réalisation spirituelle, et qu'il a une mission à accomplir, il ne peut évidemment pas dire « ben non, je n'ai pas de mission à accomplir et je ne suis rien ». Même si par ailleurs il dit « je suis rien », ben, Rumi aussi d'ailleurs, il dit « tu es devenu le maître », « non, non, je suis que fumée dispersée », etc. Donc c'est vrai que c'est une chose à tenir ensemble. Mais en même temps, je n'ai pas d'autre explication à vous donner qu'une perception purement subjective. C'est-à-dire que quand on lit ça sous la plume de Shams, enfin bien que ce ne soit pas sous sa plume, puisque oui, c'est son enseignement oral qui a été pris en note par l'entourage, donc quand on lit ces paroles de Shams, on voit bien que ce qui se déploie, ce n'est pas du tout un ego. Parce que par ailleurs, il dit aussi, il parle aussi d'éventuelles faiblesses, par exemple. Il ne dit pas. Je ne sais pas comment vous dire, c'est quelque chose de purement subjectif. Mais quand on le lit, il ne donne absolument pas l'impression de quelqu'un qui est en train de mettre en avant son ego. Il donne vraiment l'impression de quelqu'un qui est en train de vous inviter à entrer dans son univers et à changer de regard. Et que s'il vous dit cela, ce n'est pas pour se mettre en avant, mais bien pour vous faire comprendre quelque chose de l'essence de l'enseignement qu'il a à donner. Je sais bien que c'est complètement subjectif ce que je vous dis là, mais c'est vrai que pour vraiment en rendre compte, il faut lire l'œuvre dans son ensemble. Si je ne m'abuse, M. de Fouchécourt et M. Feys nous préparent une traduction de l'ensemble des dits de Shams. Et alors à ce moment-là, vous pourrez vous faire une idée en lisant la totalité. J'espère que ça ne tardera pas trop. J'ai cru voir M. Feys ici tout à l'heure. Voilà. Et donc voilà, je pense qu'il faut, il faut le voir dans un ensemble. Mais c'est vrai que c'est un danger qui guette tout le monde, à toutes les étapes. Et puis peut-être que je peux du coup répondre à la dernière question sur la fonction performatrice évidemment de la parole de Shams. Évidemment, il n'y a absolument aucun doute, puisque en fait, tel que Shams raconte lui-même l'histoire de sa rencontre avec Rumi, il lui pose une question somme toute banale je ne vais pas m'étendre parce que ce serait trop long, mais il lui pose une question sur un mystique, Yazid, etc. Et Rumi ne lui répond même pas. Il tombe simplement évanoui, alors que là, je veux dire, vous et moi, on nous dirait ça, on dit bon, voilà, il a juste posé une question. Non, en réalité, c'est pas le contenu de la question qui comptait, c'est la personne qui dit ce mot et qui d'un coup vous transforme. Et ça me fait penser aussi aux évangiles, c'est-à-dire le centurion qui dit à Jésus, dis seulement un mot et il sera sauvé, mon enfant sera sauvé. Donc un mot suffit, effectivement. chez tous ces grands mystiques, il y a cette idée que la parole, ce n'est pas de la parole. La parole du mystique, c'est du verbe en action. Et en effet, ça change tout. Et Rumi va reprendre ça, et ça va peut-être répondre à votre question. Rumi va reprendre totalement cette idée du verbe opérateur, qui est efficient, disons, hein, qui a vraiment une vertu opérative, en parlant de sa poésie comme étant le lieu où se manifeste Shams en personne. Parce que, à travers l'alchimie du verbe, précisément, l'alchimie du verbe poétique, il y a une mise en présence. Et je vous garantis, alors en traduction c'est peut-être moins facile, mais vraiment, si on entre avec la disposition spirituelle nécessaire dans l'œuvre de Rumi, on ne fait pas l'expérience qu'il a faite avec Shams, parce qu'évidemment ce n'est pas la même chose qu'une présence physique, sans aucun doute, mais on fait quand même une expérience de la lumière. Une expérience de la lumière qui provoque une commotion intérieure, une véritable commotion intérieure. Et ça, c'est plus l'universitaire qui parle, c'est la lectrice de Rumi. Et cette commotion intérieure, elle a, si on la travaille après, elle a la capacité d'aider en tout cas à cette transformation à laquelle Rumi en réalité nous invite. Et j'ai coutume de dire à mes étudiants, je crois qu'il y en a quelques-uns ici, que c'est très bien de lire les œuvres de la poésie persane et les apprécier et les connaître, mais l'œuvre de Rumi en particulier, si on ne fait que la lire et qu'on n'en est pas transformé, c'est qu'on est vraiment passé à côté.